Le miracle de la musique concrète que je tente de faire ressentir, c'est qu'au cours des expériences, les choses se mettent à parler d'elles-mêmes, comme si elles nous apportaient le message d'un monde qui nous serait inconnu.
Pierre Schaeffer, polytechnicien, a initié un centre de recherche au sein de l'ERTF. Les émissions de radio préenregistrées étaient faites de plusieurs disques qui duraient 3 minutes à peu près chacun, et puis qu'on enchaînait, un peu à la manière de DJ aujourd'hui. Et à la fin de chacun des disques, pour pas qu'ils se mettent dans le blanc, il y avait un sillon fermé, donc un son mis en boucle. Un sillon fermé, donc un son mis en boucle. Un sillon fermé, donc un son mis en boucle. Un sillon fermé, donc un son mis en boucle. Un sillon fermé, donc un son mis en boucle. Un sillon fermé, donc un son mis en boucle.
Et là, tout d'un coup, il a eu un choc parce que ses fins tombaient n'importe où dans le message. Si c'était de la musique, ça faisait ni, nanana, ni, nanana. Si c'était la parole, ça fait balali, balali. Et il a écouté toutes les variétés de. Comme ça, et tombé à pieds joints sur cette espèce d'événement tout à fait cocasse, au fond, et résultat simplement d'une pratique avec des machines. Il s'est aperçu qu'il se passait quelque chose de tout à fait étonnant pour parler d'un espèce de temps gelé, quelque chose qui était de l'ordre du temps, mais en même temps qui sortait du temps, puisqu'il n'y avait ni queue ni fin. Maintenant, on appelle ça des boucles, on appelle ça des loupes, on appelle ça des échantillons. On perd la notion de l'endroit où ça commence et où ça finit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ni début ni fin, ça devient des espèces d'êtres hors temps. Et ça l'a beaucoup intéressé parce que ça faisait sortir du fil temporel des sortes d'objets inouïs. Ça a été un des débuts de la musique concrète.
Plongée acousmatique de Loïc Loury.
Je suis François Bell, compositeur, chercheur et organisateur de cette musique qui s'est appelée concrète pendant un certain nombre d'années et qui ensuite s'est généralisée, que pour ma part, j'appelle musique acousmatique. La musique concrète, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est une irruption plus ou moins inattendue, qui est surtout le fait d'un esprit curieux qui était Pierre Schaeffer dans les années 48 et qui était un ingénieur polytechnicien, mais aussi un musicien, un écrivain, un homme de culture et un homme d'imagination surtout. Il a fait ce qu'il a appelé un concert de bruit, des fragments de sonorités. Il a enregistré des trains dans une gare, il a fait tourner des petites machines devant un micro, petit à petit. Il s'est dit, mais on pourrait faire une musique avec des sons concrets, comme ça, des sons de la vie.
Je m'appelle Sébastien Roux, je suis musicien et je fais entre autres de la musique qu'on va appeler concrète, dans le sens le plus large du terme. J'ai une grosse banque de sons qui n'est pas toujours très bien organisée. On peut écouter des extraits. Alors là, il y a un dossier qui s'appelle Surface harmonique active. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors, on va en écouter un. J'imagine que ça s'appelle Surface parce que c'est donc des sons qui n'ont pas d'évolution. Le son lui-même a un petit mouvement, mais sur la durée, il est statique. Et donc, harmonique, j'imagine, parce qu'on distingue une note. Il y a un autre dossier où on a des souffles ou vibrations bruitées. Alors, celui-là, c'est quoi? Donc ça, c'est des improvisations faites avec un ami saxophoniste. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ça, c'est un son de percussion qui a été retravaillé, mais je n'ai plus aucun souvenir du procédé que j'ai utilisé pour en arriver là. Il y a un dossier qui s'appelle Objets électroniques. Alors, ça doit être plutôt des choses plus articulées ou plus courtes, qui sont comme des ponctuations. Un autre. Après, il y a un dossier plus concret, donc c'est pareil, c'est des objets, donc des choses un petit peu courte mais et articulée, avec une connotation plus prise de son, quoi, plus micro. On entend plus le geste. Bon, là, on n'entend pas vraiment le geste. C'est des cymbales. Hein. En tout ? Oh non, aucune idée. Je serais incapable de dire. En plus, il y en a qui sont les sons d'origine. Enfin, une impro enregistrée d'un musicien, par exemple. Ce premier fichier, je vais le découper en morceaux en fonction des moments de l'impro. Donc, ça va peut-être donner lieu à, je sais pas, une vingtaine de fichiers. Et puis peut-être qu'après, avec un de ces sons-là, je vais le transposer pour faire une petite progression, un petit paysage qui va durer 2 minutes, par exemple. Ça va faire un nouveau son. C'est pas infini, mais à la fin, ça me fait beaucoup, beaucoup de sons, quoi. Je serais bien incapable de te dire combien.
Il y a à Paris, rue de l'Université, un immeuble de la RTF avec des studios dans lesquels des hommes travaillent sur d'étranges instruments. De longues plaques de métal, des gonds, des appareils en forme de sculptures abstraites, si bien qu'en pénétrant dans ces studios, on a un peu l'impression de pénétrer dans l'antre d'un sorcier. D'un sorcier moderne, bien sûr. Et ce sorcier, il est d'ailleurs à nos côtés aujourd'hui, c'est Monsieur Pierre Schaeffer, directeur du groupe de recherche musicale de la radio-télévision française. Les instruments en question sont des objets musicaux d'origine acoustique, quoi que ce soit le terme exact.
De grandes écoles pour musique expérimentale, celle qui emploie des sons synthétiques d'origine électronique, alors on ne voit rien du tout, c'est pas pittoresque, et nous, comme vous le dites, qui employons...
La musique concrète, assez rapidement, a inquiété beaucoup Pierre Schaeffer. C'était, pour lui, très intéressant, un domaine nouveau, mais en même temps, ces tapages, ces bruits de toutes sortes, ces borgorythmes, c'était aussi l'arrivée, tout d'un coup, la porte ouverte à beaucoup de gens qui étaient un peu... désaxés, détraqués, un peu mal dans leur peau, qui pensaient qu'on pouvait faire de l'art à peu de frais en faisant des zigotos devant un micro. C'était pas là du tout la démarche de Schaeffer. Schaeffer voulait vraiment voir ce qu'on pouvait extraire de ça comme tentative d'approfondissement qui dépasserait la mousse de la bière d'une agitation un peu stérile, un peu infantile, sans lendemain sans avenir, mais et même sans présent.
François Bonnet, ça fait 7 ans que je travaille pour le GRM, d'abord uniquement pour les concerts en tant que freelance, et puis depuis bientôt 4 ans à temps plein. GRM, c'est un groupe de recherche musicale, recherche et musicale avec un S. Pierre Schaeffer, polytechnicien, a initié un centre de recherche au sein de l'ERTF. C'est la création du club d'essai et de la structure de recherche qui a permis de découvrir de nouvelles potentialités esthétiques. C'était une structure de recherche plutôt liée à l'audiovisuel et à la radio notamment. C'est Schaeffer finalement qui a eu l'intuition qu'il pouvait y avoir des conséquences au niveau de la création, au niveau de la musique. C'est lui qui a rapidement intégré des musiciens dans son équipe et des ingénieurs, mais il y avait pas, c'est pas né d'une ex nihilo, d'une espèce de volonté de tiens, il y a quelque chose à défricher dans la musique aujourd'hui. Il y a même des anecdotes où des gens, moi je connais pas assez bien l'histoire elle-même, il y a des gens qui disent finalement il fallait trouver un poste à Schaeffer qui était un polytechnicien qui voulait faire plein de choses au sein de la RTF, on lui a mis une espèce d'os à ronger qui était le service de la recherche. L'activité, on va dire centrale, qui n'est pas forcément principale, mais centrale, c'est la production, c'est-à-dire qu'on accueille des musiciens et des compositeurs en studio, on leur fait des commandes pour créer des pièces, on assiste à la création de la pièce, et on fait des concerts, on donne ces pièces en création, avec l'Acousmonium, donc l'orchestre de haut-parleurs, on va dire, du GRM.
Je m'appelle Diego Losa, je suis compositeur de musique électroacoustique. Je travaille au groupe de recherche musicale. Et bon, je voulais vous expliquer justement comment on a travaillé ces morceaux. Si nous on utilise, par exemple, dans les cas de ces sons qu'on va écouter, que ce sont de robinet, c'est un robinet à pression, tout simplement, avec un bac à métal, où l'eau il tombe sur ce bac à métal. Et ensuite, on va voir ces sons-là, que c'est une espèce de grande explosion. Voilà.
Moi, j'ai un parcours qui n'est pas un parcours, entre guillemets, classique, mais ce qu'il y en a vraiment, je ne sais pas, mais je jouais dans des groupes de rock quand j'étais ado. Et puis, ces groupes de rock devenaient un peu des groupes de rock expérimentaux. On essayait des choses, des effets sur les guitares ou des modes de jeu un peu étranges, tout ça. Et puis un jour, ces groupes se sont arrêtés, mais moi, je voulais pas arrêter la musique. Donc, du coup, j'ai gardé la guitare et puis je l'ai branchée sur mon ordinateur pour faire des sons. Et puis, au bout d'un moment, j'ai lâché la guitare, mais j'ai gardé l'ordinateur. Si on regarde un peu l'histoire de cette musique-là, Parmigiani, Bernard Parmigiani, qui a fait des disques incroyables, qui est vraiment un des fondateurs du vocabulaire, un peu de la musique concrète, était au départ, je crois, plus de formation d'ingénieur du son que de formation de compositeur. Mais je pense que pour cette musique, il faut vraiment avoir l'amour du son. Je dis pas que les compositeurs l'ont pas, je pense qu'il y en a plein qui l'ont, loin de là, mais l'ingénieur du son, s'il l'a pas, il y a une erreur de casting quand il a fait sa formation, quoi.
La musique concrète, c'est de la musique faite avec une boîte à outils, on pourrait dire, sans instrument. Et c'est une musique qui emploie des corps sonores. La musique concrète, puis acousmatique, se donne justement le curieux challenge de vouloir utiliser beaucoup de sons, beaucoup plus de sons que ceux du système musical que nous connaissons. La musique est abstraite, effectivement, parce que la musique, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. Qui n'existe pas au sens où le mot exister veut dire des choses qui seraient là et qu'on verrait. La musique n'est pas visible et elle n'est pas antérieure à l'homme. On ne trouve pas la musique toute faite comme on trouve l'eau, comme on trouve la chaleur, comme on trouve des valeurs qui nous sont nécessaires biologiquement. Mais il se trouve que la musique, elle n'est pas donc à l'extérieur, elle est en nous. Donc la signification est en nous. Nous sommes des êtres de signification. Les choses que l'on voit, qui tombent sur notre sens, ont une double fonction. D'une part, nous voyons que ce sont des choses, que ces choses se fichent bien de notre existence, elles étaient là avant, elles n'ont rien à nous demander. Mais il y a un deuxième niveau, c'est que toutes choses, dès qu'on se les approprie, changent de statut. Elles deviennent des significations. Les choses ne sont pas seulement des choses, ces choses veulent dire quelque chose d'autre. Par exemple, si on veut montrer que la fin de notre territoire, on va prendre un caillou, on va prendre trois cailloux qu'on va mettre l'un sur l'autre et on va comme ça poser des bornes. Et ce seront toujours des cailloux, mais ces cailloux ne sont plus visibles comme des cailloux, ils sont visibles comme des signes de limite d'un territoire. La musique concrète consiste en effet à partir du moment où on a eu des micros et des supports pour pouvoir tenir le son sur le support, c'est de pouvoir travailler avec le total sonore, c'est-à-dire des choses sonores, pour leur faire dire autre chose qu'elles sont, pour les organiser en tant que relation de choses, c'est-à-dire de la musique, par exemple. J'ai enregistré des toupies, plusieurs toupies que je fais chanter sur un tapis, sur une table. Tout d'un coup, la toupie est passée très très près d'un micro, et d'ailleurs j'ai gardé la phrase... C'est passé très près d'un micro, donc ça a dû donner un moment intéressant. Et du coup, j'ai appelé la pièce « Un moment ». Ce n'est pas simplement un son, c'est un événement. C'est un événement dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui a une tension et qui dure et dont la ligne, la géométrie de la tension est très frappante et intéresse beaucoup l'oreille, sachant qu'en même temps, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est-à-dire que l'identification est très imparfaite, c'est déjà un objet très abstrait, parce qu'on entend vraiment une trajectoire, quelque chose qui est lancé et qui tient dans l'air un certain temps avant de s'éteindre. Alors c'est donc une très belle proposition musicale, parce que c'est à la fois charnu, plein de vibrations, et en même temps assez abstrait, parce que on sent très bien la régularité géométrique de la ligne. Cette image, puisque c'est une image de son, je l'ai mise dans différents paysages, dans différentes perspectives, repliée sur elle-même plusieurs fois, découpée, transposée, articulée, et puis également mise en, en relation avec des crissements, des craquements, une orchestration tout autour.
Des fois, on parle de cinéma pour l'oreille, hein, dans cette musique concrète. C'est pas toujours le cas, hein, ça dépend des compositeurs. Je pense qu'un des plaisirs de la musique concrète, et tout particulièrement en concert, c'est vraiment cette idée de cinéma pour l'oreille. On est plongé dans un univers et on a plein d'images qui nous apparaissent et qui sont très personnelles souvent. Hein. Chacun se raconte sa propre histoire et c'est ça qui est vachement beau dans cette musique-là. Bah, c'est le son, hein, aussi. Le son a ce pouvoir évocateur qui est en même temps très évocateur et en même temps très libre. Chacun projette ses idées. Alors que quand on voit un film, l'image, elle est là, quoi. On a un décor qui est planté. Alors que même si on plante un décor dans la musique concrète, ça laisse quand même beaucoup de liberté à l'imagination.
La musique faite avec des sons, si elle est bien faite, dans une œuvre qui la développe bien, pourquoi pas donc le premier titre qui soit arrivé dans ce nouveau genre, à savoir la symphonie pour un homme seul. On entend des bruits de toutes sortes, on entend des bruits de pas, on entend des bruits de sifflet, on entend des foules, on entend quelqu'un qui émet des... Bon, déjà, je trouve que c'est bien titré, c'est-à-dire qu'on entend absolument un homme dans sa solitude, entouré d'une quantité incroyable de sonorités, beaucoup de sons qui le concernent et dans lesquels il est seul. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui se promène dans une ville, et avec tous les bruits qui est autour, qui passe à travers des ambiances comme ça, qui se promène, il est dans le métro, il sort du métro, il est dans un autre univers, et les sons changent, et c'est toujours lui qui se promène. C'est un peu comme un voyage dans sa tête, pendant que lui se promène dans différents endroits d'une ville, d'un endroit très, très social, très civilisé, très socialisé, avec des machines, avec des événements. Et c'est très proche d'une émission de radio, d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, il y avait assez peu de distance entre la manière de construire un continuum musical et un continuum radiophonique. Et ça pourrait s'entendre aussi comme une série de légendes sonores, de spectacles par diapositive dont on ne verrait pas les images, c'est-à-dire une espèce de cinéma sans images. L'être humain a des demandes très diverses par rapport au son, par rapport à l'imaginaire, au désir que le son peut faire exploser dans l'imagination. Quand on a une bonne audition, on peut entendre beaucoup de choses et de ces choses-là, extraire beaucoup de significations et tout d'un coup, s'avancer dans le monde des sons avec beaucoup d'aisance. Alors je pense que quand on a des oreilles qui entendent bien, très très vite, on a envie d'écouter des choses compliquées.
Si les gens pensent que c'est du bruit, c'est que je pense qu'il y a aussi il y a la culture occidentale de l'harmonie, de la mélodie, sont vraiment très très ancrés. Moi, par rapport à un public de béotiens, on va dire, j'ai de moins en moins l'impression qu'on considère comme ça, comme du bruit ou du n'importe quoi, plutôt que comme une sorte de cinéma pour l'oreille, qui est une façon pour les gens de... Sans aller dans un esprit de musique, sans aller chercher de la musique dans ce qu'ils entendent, vont chercher ça comme des ambiances, des espèces d'histoires abstraites sonores. Ensuite, je pense que c'est pas une fatalité, que les écoutes évoluent, et que de toute façon, on est face à quelque chose, on n'est plus dans un paradigme, on va dire, moderne, où les avant-gardes se succèdent, on est dans quelque chose, ce qu'on pourrait dire de post-moderne, où les mouvements, les courants se cohabitent les uns avec les autres, s'entrelacent. Et je pense qu'on est dans une logique où il ne faut plus essayer de rassembler le maximum de gens, mais simplement être à la disposition des gens pour qu'ils puissent, s'ils veulent venir, pas avoir d'entrave pour accéder à cette musique.
Notre époque est une époque de bricolage intégral, parce que nous avons quitté un monde et une stabilité culturelle. Nous ne sommes pas encore installés dans un autre monde qui serait le monde mondial, peut-être dans 100 000 ans. C'est le monde des sensations et des excitations et des désirs cachés qui tout d'un coup se libèrent par une rencontre. Et c'est comme ça que naît la première étincelle de quelque
choses dont ensuite devient une combustion. Enfin, voilà, c'est comme, un peu comme on fait un feu avec du bois. On réunit des choses, on met une étincelle, ça fume, ça s'éteint, alors on voit pourquoi. Donc on réinstalle mieux, on organise des courants d'air, on remet l'étincelle, du coup là ça part très bien, etc. Voilà.
Merci à François Bayle, Diego Lossa, François Bonnet et Sébastien Roux. Merci à Noémie Rousseau et au Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Mixage, Pascal Doumange.